Studio Tamani, voici les informations en français.
8 heures dans la commune de Kolongo, cercle de Massina, même heure sur l'ensemble de nos radios partenaires. À l'écoute donc de nos programmes, il est 8 heures. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la synthèse de l'actualité matinale. Voici les titres. La sécurité n'est toujours pas revenue à Farabougou malgré la présence des forces armées maliennes, pendant que d'autres localités du Nord continuent d'accueillir des déplacés. Accord pour la paix, création de 2 projets de textes pour pallier les insuffisances dans l'application des textes dans les commissions DDR et intégration. L'annonce a été faite cette semaine par le gouvernement. La fête de Pâques est dans quelques jours plus tôt. De ce fait, les cérémonies de la semaine sainte sont en cours. Que signifie la semaine sainte chez les chrétiens? La réponse dans ce journal. À la présentation, Mariam Maïga, la mise en onde est assurée par Mamadou Ouattara. La sécurité peine à revenir dans les localités qui étaient sous emprise des groupes djihadistes. Parmi celles-ci, l'on peut citer Farabougou, les populations continuent d'être privées de leur mouvement. Et cela, malgré la présence de l'armée malienne. Au même moment, le cercle de Gossi, dans la région de Tombouctou, accueille des milliers de déplacés. Les détails avec Fatih Ouattara.
Un calme précaire règne à Farabougou depuis l'arrivée de l'armée malienne en indiqué de nombreux habitants joints sur place. Mais ces derniers dénoncent toutefois une restriction des libertés d'aller et de venir. Ils déplorent la suspension des travaux champêtres et des foires hebdomadaires et toute autre activité. Cela depuis plus de 3 ans.
Nous sommes assis. Nous ne faisons rien. Pas de champs, pas de pêche, pas de commerce. C'est l'armée qui nous donne de temps à autre à manger. Nous n'osons même pas aller dans un village voisin sans être escortés par l'armée. La ville est vraiment morte. Nous sommes en sécurité, mais nous nous sentons dans des coquilles.
Au nord du pays, des groupes djihadistes ont sommé le 23 mars dernier les populations du village de Indaki, cercle de Gossi, de quitter les lieux. Ces menaces ont semé la panique et le déplacement des populations vers Gossi et d'autres localités. Selon le 3e adjoint au maire de Gossi, Agissa Agarhahiyallah, ces déplacés manquent de tout et ont urgemment besoin d'aide.
On a fait une première alerte de 400 personnes, mais c'est des milliers, c'est pas des centaines. On s'attend à recevoir des milliers de personnes. Les besoins, c'est les besoins en vivre, non-vivre, l'eau, la santé. Les plus nombreux, c'est les femmes et les enfants. Où il y a un pas de l'eau entre Indaki et Gossi.
Pour rappel, un convoi de l'armée malienne a eu un accrochage avec des hommes en armes le samedi dernier à Dogofiri, région de Ségou. Les bilans seraient de 1 mort et 2 blessés des sources locales.
Un reportage signé Fatih Ouattara. S'agissant toujours de la sécurité, le dernier rapport de l'expert indépendant des Nations Unies décrit un tableau peu reluisant de la situation des droits de l'homme au Mali. En plus de l'impact dévastateur sur les populations civiles, l'espace civique et politique se rétrécit considérablement au Mali, a-t-il alerté. Pour Alioune Tine, il est temps de repenser les réponses à la crise malienne. Que peuvent être les solutions idoines à la crise malienne et qu'est-ce qu'il faut pour mettre en œuvre ces stratégies? Mamadou Samassikou.
Pour cet expert indépendant des Nations Unies, la résolution multidimensionnelle réside dans un changement de stratégie et de réponse apportée. Alioune Tine, expert indépendant.
J'exhorte le Mali et la communauté internationale de repenser les réponses à la crise multidimensionnelle à laquelle fait face le pays, en mettant l'accent sur des stratégies intégrées garantissant la sécurité humaine, le développement, ainsi que le respect, la protection et la mise en œuvre des droits humains.
Cet avis est aussi partagé par Fousseyni Guindo, un spécialiste des questions sécuritaires. Selon lui, le Mali et ses partenaires doivent trouver le compromis adéquat pour le respect des droits humains et le retour de la paix et la sécurité.
Le gouvernement ou les autorités de la transition veulent que l'administration tutille un peu son intervention dans un cadre pas que social mais aussi militaire. Et tout comme de l'autre côté aussi, on demande aussi à l'État malien de faciliter certaines prises de décisions et certaines actions à l'administration sur le sol malien.
Dans son rapport, Aliou Tine a mis en garde le Mali et la communauté internationale sur l'instrument politique des droits humains. Il a aussi exhorté la communauté internationale à maintenir le lien avec Bamako et de les renforcer.
N'hésitez pas à faire un tour sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Vos critiques et suggestions sont les bienvenues. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière la création d'organisations et de modalités de fonctionnement de la Commission nationale désarmement, démobilisation et réinsertion et celle dite intégration. L'information a été donnée en Conseil des ministres. Selon les autorités, ce projet vise à corriger les insuffisances et à faciliter la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Le point avec Mariam Koulibaly.
Le gouvernement tente de faire bouger les lignes dans la mise en œuvre de l'accord à travers ces deux projets de décret. Le texte précise qu'il y aura la création d'une cellule administrative au niveau de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion. La commission d'intégration s'appellera désormais la Commission nationale d'intégration. Des antennes régionales de la Commission nationale d'intégration verront également le jour, précise le document. Selon les autorités, depuis le début du processus, les commissions de et d'intégration ont enregistré 74 618 ex-combattants. Parmi eux, 1744 intégrés au sein des forces de défense et de sécurité et déployés sur le terrain. Par ailleurs, le directeur de la Direction des informations et des relations publiques des armées d'IRPA, colonel Souleymane Dembélé, dément les rumeurs selon lesquelles les forces armées maliennes sont en train de se réarmer pour récupérer Kidal. Il précise que les FAMA restent attachés à l'accord pour la paix et la réconciliation.
Sur un tout autre sujet, la communauté chrétienne s'apprête à célébrer la fête de Pâques. Déjà, les préparatifs vont bon train. Les cérémonies de la semaine sainte ont démarré à travers le pays. Alors, que signifie la semaine sainte chez les chrétiens? Comment elle est célébrée? Pour en savoir plus, notre reporter Laleïcha Walet Infa est allé à la rencontre des responsables d'église.
Pomba Kone est le pasteur de l'église protestante de Bulkasimbugu. Il indique que la semaine des Pâques magnifie la résurrection de Jésus-Christ.
Jésus-Christ est mort un vendredi. Donc, alors, il a été enseveli, il a fait le samedi dans le tombeau, et c'est le dimanche matin, troisième jour, qu'il est ressuscité. Alors maintenant, on parle de semaine de la Pâque. Autrement dit, durant cette semaine, les chrétiens, donc, ensemble, célèbrent donc la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
Pour les catholiques, la semaine sainte symbolise la rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem au dimanche des Rameaux. Abbé Fernand Koulibaly du diocèse de Ségou exhorte les fidèles à adorer Dieu toute la nuit devant les saints sacrements.
La semaine sainte chez les catholiques, c'est la dernière semaine qu'on donne aux chrétiens de vivre ce temps pleinement de toute notre âme, de toute notre force physique également et spirituelle pour célébrer la fête Pascal. Et cette semaine commence avec le dimanche des Rameaux, dimanche dernier, et ça va continuer jusqu'au dimanche prochain, jour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ.
Durant toute la semaine sainte, des prières et bénédictions seront faites pour le retour de la paix au Mali selon les fidèles chrétiens.
Et c'est cette musique nous amène directement dans notre rubrique Zoom sur. On est au mois de Ramadan et qui parle de Ramadan parle de prière surrogatoire. Aujourd'hui, notre chroniqueuse nous parle de ces gens qui choisissent les lieux de prière par rapport à leur durée. Adama Amadou Haïdara.
Ali est un jeune âgé de la trentaine. Chaque jour après la rupture du jeûne, vêtu de son boubou blanc avec le chapelet au cou, il se dirige vers la prière communément appelée Nafila. Vous allez certainement dire que c'est le quotidien de beaucoup d'autres personnes durant ce mois béni de Ramadan. Ben, vous n'avez pas tort. Mais la particularité avec Ali, c'est qu'il choisit là où il va prier. Devinez pourquoi? À cause de la durée de la prière. « Moi, je vais prier là où ça va plus vite », dit Ali. Et Ali n'est pas seul dans cette situation. Mimi et sa tante Hadjara font de même. Elles se dépêchent même pour aller chercher de la place. « C'est un lieu très convoité », disent-elles. On est déjà dans les quinzaines du Ramadan. Cependant, par rapport à la place, Ali nous murmure quelque chose à l'oreille. « Maintenant, les gens ne sont pas fréquents à la mosquée comme les premiers jours. Hein. » Comme le dit un imam, « Quiconque accomplit la prière nocturne pendant le Ramadan, avec une foi sincère et en toute pureté d'intention, se verra pardonner ses fautes antérieures. » Alors, bonne suite de Ramadan à tous.
Eh bien, Adamo, on espère que toi aussi, tu ne tournes pas en ville pour choisir les lieux de prière en fonction de la durée. Ainsi pour enfin notre journal d'aujourd'hui qui vous a été présenté par Mariam Maïga. La mise en onde a été assurée par Mamadou Ouattara. Vous pouvez réécouter cette édition sur notre site internet au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Ne décrochez pas car juste après le magazine, vous aurez la version en Bambara avec Mariam Koulibaly. Notre magazine santé de cette semaine met en lumière le gavage, cette pratique ancestrale chez certaines communautés au Mali. Pour plaire, la jeune fille ou la femme en âge de procréation doit prendre du poids en mangeant plus. Une méthode dénoncée par des spécialistes de santé qui citent parmi les conséquences l'obésité et d'autres maladies cardiaque. Pour certains traditionnalistes, le gavage est signe de richesse. Pour certaines de ces familles qui la pratiquent. Des témoignages dans ce reportage de Oumar Waïgalo avec le concours de nos correspondants.
Le gavage est parfois pratiqué par la mère de la fille ou une dame de compagnie qui joue le rôle de l'éducatrice. Kumba Yatara a été gavée à son jeune âge à l'occasion de son mariage. Durant 3 mois, elle avait suivi une alimentation particulière. Elle consommait le mule, le lait, la bouillie, la crème. Kumba témoigne qu'on l'oubliait à manger.
On prépare la crème à base du lait caillé. Je consomme ça dans la matinée entre 8h et 12h. Je ne bois que du lait et de l'eau. À partir de 12h, on me prépare du riz accompagné des boulettes de viande, du beurre, du lait plus la bouillie. Je consomme ces aliments jusqu'à 17h. Entre 17h et 20h, je ne bois que de l'eau pour éviter le gonflement du ventre. De 20h à l'aube, c'est le lait qu'on consomme.
Cette pratique du gavage était très répandue dans le nord du pays. Mais avec l'apparition de certaines maladies chroniques, le phénomène a tendance à disparaître dans les centres urbains. C'est le cas à Gao.
En milieu nomade, oui. Mais à Gaoville, ici, ce n'est pas tellement fréquent.
Je ne sais pas si ça existe actuellement, mais dans le passé, on le faisait.
C'était dans les zones nomades, mais précisément maintenant, quand même, ça, les gens ne les font plus.
Ces critères traditionnels de beauté qui provoquent une prise du poids anormal n'est pas pourtant connu au sud du pays. Les gavages n'existent pas chez les Sénéfo de Sikasso.
J'ai appris que cette pratique existe chez les Sorey et Tamashek.
Chez nous, ici à Sikasso, le gavage, ce n'est pas tellement dans nos coutumes. Les repas communs traditionnels, point barre, c'est tout.
J'ai vu le gavage chez les peuples.
À travers le gavage, les ethnies pratiquantes cherchent à montrer leur richesse et les conditions dans lesquelles leurs femmes vivent. C'est l'explication donnée par Mohamed Zampierre Tita, traditionnaliste et gestionnaire des patrimoines culturels.
C'est d'abord pour préparer la jeune fille à avoir un bon mari, parce que dans le canon de la beauté, l'embonpoint de la femme est un repère. Et puis aussi, la femme, quand elle va rejoindre son mari, elle vient avec tout son embonpoint. Cela signifie qu'elle vient d'une famille aisée, d'une famille qui a des troupeaux, donc d'une famille qui est très riche.
Quelles sont les conséquences de cette pratique sur la santé? Selon Dr Abdourazek Bello, nutritionniste, elle est la source de plusieurs maladies.
La première conséquence, c'est que ça entraîne une prise de poids anormale, qui fait que les femmes là qui font le gavage vont se retrouver dans une situation d'excès de poids et d'obésité. Les personnes qui sont en excès de poids sont plus exposées à certaines maladies, notamment le diabète. Il y a une relation entre l'excès de poids et les maladies cardiovasculaires. Il y a une relation entre l'excès de poids et les troubles digestif. De plus en plus, les personnes qui sont obèses vont avoir un système immunitaire qui va être plus ou moins défaillant.
D'autres traditionalistes estiment aussi que les gavages veulent prôner l'acceptation de soi et veulent pousser les jeunes filles à se réapproprier leur corps. Mais ceci rappelle en même temps que l'apparence physique ne définit pas l'état de santé d'une personne. Fin de citation.